Radio Prague, les informations. Bonjour, le commissaire européen est en visite à Prague pour discuter des problèmes tchèques concernant les fonds structurels. Politique énergétique, le ministre de l'Industrie entend renforcer l'importance du nucléaire. Et puis enfin cinéma, le festival Fébiofest rend hommage à Sandrine Bonner. Le commissaire européen en charge des affaires régionales, Johannes Hahn, est en visite à Prague ces jeudi et vendredi afin de discuter des problèmes tchèques, problèmes relatifs aux subventions en provenance des fonds structurels, alloués à la République tchèque. La semaine dernière, la Commission européenne a menacé de suspendre le versement de ces subventions à partir du mois de juillet prochain si le gouvernement ne mettait pas de l'ordre dans le contrôle et le suivi des programmes de subventions de ses ministères. Plusieurs dizaines de milliards d'euros sont en jeu. Ce jeudi, Johannes Hahn a été reçu par le Premier ministre Petr Nečas. À l'issue de cette rencontre, le commissaire européen a déclaré que le versement des fonds structurels à la République tchèque pour la période 2014-2020 dépendrait de la manière dont les fonds actuels, c'est-à-dire ceux prévus pour la période 2007-2013, seraient obtenus. Le gouvernement a déjà réagi en annonçant que le contrôle de tous les programmes de subvention passerait prochainement sous l'aile du ministère des Finances. Ce vendredi, Johannes Hahn doit encore rencontrer le ministre des Finances. Politique toujours, la République tchèque doit persévérer dans sa politique de production et d'exploitation de l'énergie nucléaire. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Industrie et du Commerce, Martin Kuba, à l'occasion du 8e Forum international de régulation énergétique qui s'est achevé ce jeudi à Prague. Outre l'achèvement de la centrale de Temelín, prévue pour 2025, et la prolongation de la durée de vie de la centrale de Dukovany jusqu'en 2035, le ministre estime qu'il convient de réfléchir à l'éventualité de la construction d'une troisième centrale nucléaire dans le pays. Le ministère de l'Industrie et du Commerce prépare actuellement une conception énergétique nationale qui devrait valoir pour les 25 à 30 prochaines années. Selon cette conception, le nucléaire devrait couvrir à l'avenir plus de la moitié des besoins en énergie de la République tchèque. Selon le quotidien Mladá Fronta Dnes, l'agence ABL aurait obtenu les enregistrements d'entretiens téléphoniques datant de 2007 entre l'ancien maire de Prague, Pavel Bém, le lobbyiste Roman Janoušek et Petr Djurica, chargé des activités commerciales à la municipalité de Prague. Ces documents qui démontrent l'influence des lobbyistes sur la gestion financière de la capitale risquent de compromettre l'ancien maire de Prague. Selon le journal, il s'agirait d'écoutes téléphoniques réalisées par le service de renseignement BIS. Le Premier ministre Petr Nečas a réagi à la publication de ces informations en déclarant qu'il s'agissait d'une fuite illégale et qu'une enquête policière serait ouverte. Pavel Bém envisage, lui, de se défendre en justice. On passe à la culture. Le chef d'orchestre Jiří Bělohlávek se verra prochainement remettre l'ordre de l'Empire britannique. La décoration, lui a été attribuée par la reine Elisabeth II. Ce jeudi, l'ambassade de Grande-Bretagne à Prague a précisé que Jiří Bělohlávek sera promu au grade de commandeur. Considéré comme le meilleur chef d'orchestre tchèque actuel, Jiří Bělohlávek assure cette année encore les fonctions de directeur musical de l'orchestre symphonique de la BBC à Londres, avec laquelle il donnera d'ailleurs un concert lors du prochain festival, le Printemps de Prague, à partir de septembre prochain. Jiří Bělohlávek prendra toutefois la tête de l'orchestre philharmonique tchèque. Cinéma, c'est ce jeudi que commence à Prague le Festival international du film Fébiofest. La cérémonie d'inauguration du festival aura lieu dans le multiplex Cinestar Andiel dans la soirée de ce jeudi. À cette occasion, les organisateurs du festival remettront des prix Christiane pour la contribution à la cinématographie mondiale au comédien et réalisateur italien Nanni Moretti ainsi qu'à l'actrice française Sandrine Bonner. Au programme de la 19e édition du Festival Fébiofest figurent 185 films de 55 pays. Une partie de ce programme sera présentée en avril également dans 6 autres villes tchèques. On termine avec un mot de météo. Comme ces derniers jours, c'est de nouveau un temps largement ensoleillé qui règne sur l'ensemble du territoire ce vendredi, jour de la fête des Ivona. Quelques faibles averses sont toutefois possibles dans le sud du pays dans l'après-midi. Les températures sont en légère hausse et varient entre 13 et 18 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie pour la suite de notre programme. Une suite qui vous est présentée tout de suite par Anna Kubista. Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous et merci à Guillaume pour son bulletin d'information. Le ministre de l'Éducation, Joseph Daubèche, a démissionné, comme tu nous le disais tout à l'heure. Ministre controversé, nous reviendrons sur les tenants et les aboutissants de cette démission. Ange déchu, c'est le titre d'un spectacle pas comme les autres, donné à Ostrava en première ce jeudi soir. Il met en scène des acteurs professionnels et les détenus d'une prison locale. Et puis on passera au tourisme en deuxième partie d'émission. Bonne écoute de ce programme. Ce mercredi, à l'issue d'une réunion du cabinet du Premier ministre Petr Nečas, le ministre de l'Éducation, Joseph Daubèche, a annoncé au chef de gouvernement sa décision de démissionner. La raison officielle de ce départ est la décision du gouvernement de couper 2,5 milliards de couronnes, soit 100 millions d'euros, dans le budget du ministère de l'Éducation, restriction que le ministre sortant juge inadmissible. La presse considère toutefois cette raison comme un prétexte pour une démission qui était de toute façon inévitable. Václav Richter.
Le ministre Joseph Daubèche présentera officiellement sa démission au Premier ministre ce vendredi. Il s'en est expliqué à la télévision publique.
À la fin du mois de février, les fonctionnaires de mon ministère ont décidé de distribuer dans les régions une somme de 4 milliards de couronnes pour augmenter les salaires des instituteurs. Si je voulais donc réaliser cette nouvelle restriction, je serais obligé de réduire à nouveau les salaires des instituteurs d'au moins 2 milliards de couronnes. Or, c'est inadmissible pour moi.
Le Premier ministre Petr Nečas n'a pas tardé à accepter la démission de son ministre. Il a tenu à souligner que le départ de Joseph Daubèche était une conséquence logique de son refus d'appliquer dans son secteur la politique d'austérité du gouvernement.
Je considère sa décision comme correcte et honnête sur les plans politiques et humains. Tous les ministres de mon cabinet savent que j'exige que le gouvernement soit unanime à appuyer les décisions budgétaires clés et que la seule forme de protestation contre les moyens financiers alloués au ministère que je tolère est justement la démission du ministre. Je dois dire que la façon dont le ministre Joseph Daubèche a abordé cette situation a été honnête et correcte.
Le cabinet se déclare obligé de procéder à ces restrictions supplémentaires parce qu'il a revu à la baisse les prévisions de la croissance économique en République tchèque pour cette année. Selon cette prévision actualisée, la croissance économique ne devrait pas dépasser 0,2%. Le ministre des Finances, Miroslav Kalousek, voulait d'abord couper dans le budget du secteur de l'éducation une somme bien plus importante, 4,5 milliards de couronnes, 180 millions d'euros. En réduisant cette somme presque de moitié, le cabinet s'est donc montré exceptionnellement sensible aux exigences du ministre de l'Éducation, mais celui-ci n'a pas jugé cette concession suffisante. Selon Miroslav Kalousek, la réduction de 2,5 milliards de couronnes ne pourrait pas appauvrir de façon substantielle le budget du ministère.
Il ne s'agit que de 2% des dépenses du secteur de l'éducation. C'est comme si vous deviez déposer dans un tiroir 2% des dépenses prévues de votre budget familial. Vous sauriez certainement vivre sans ces 2% de votre budget. Chaque ministre devrait donc surmonter sans problème cette situation.
Les appels à la démission ont pratiquement accompagné toute la carrière ministérielle de Joseph Daubèche. Ils se sont multipliés notamment ces derniers temps lorsque le ministère de l'Éducation était critiqué à plusieurs reprises pour son incapacité à puiser dans les fonds de l'Union européenne. Le ministre a essuyé aussi des critiques pour le caractère confus de sa réforme de l'enseignement supérieur et pour ses anciennes activités dans l'agence de renseignement ABL. Il a également déclenché une vague de critiques par son soutien à Ladislav Batora, fonctionnaire du ministère de l'Éducation, qui avait scandalisé l'opinion par ses propos extrémistes. Tout cela n'a pas cependant empêché le président Václav Klaus de manifester à maintes reprises son appui et sa sympathie pour le ministre sortant et de le qualifier de meilleur ministre tchèque de l'éducation depuis 1989.
Padaïti Andiele, en français Ange déchu, c'est un spectacle multigenre monté au Théâtre national de Moravie-Silésie d'Ostrava dans le nord-est du pays par le chorégraphe et metteur en scène français Philippe Talard. Un spectacle mélangeant danse, chant et acrobatie sur et avec l'univers carcéral car il met en scène aux côtés des danseurs et acteurs professionnels une dizaine de détenus d'une prison locale. Le spectacle est présenté ce jeudi en première. Magdalena Rosinkova. Depuis 10 ans, le danseur et chorégraphe Philippe Talard a réalisé des spectacles dans plusieurs établissements pénitentiaires en Europe, notamment à Marseille, à Rome et à Luxembourg. Sa démarche, qui consiste à porter un autre regard sur la prison, est inspirée de l'œuvre de l'écrivain Jean Genet, Philippe Talard.
Je trouve que ces textes décrivent pas seulement l'univers carcéral, mais décrivent vraiment la situation humaine, justement, d'un ange déchu, de quelqu'un qui a chuté. Et c'est un peu tout le mythe et toute l'histoire dans cette pièce ou dans n'importe quel livre de Genet, c'est la situation de l'abandon, c'est-à-dire on est abandonné des autres, on a chuté, on a commis un crime, on a été abandonné par sa mère, comme Genet d'ailleurs, on a violé, on a tué, on a fait des fautes, on a détourné de l'argent et on se retrouve en prison et là on se rend compte que finalement on est vraiment tout seul, comme il le dit. Et on paye ce qu'on appelle la peine. Et donc il faut qu'il accepte qu'il ait commis des délits et qu'il ne l'oublie pas. Et que quand il sorte, il faut qu'il soit prêt à sortir, il faut qu'il soit prêt à être libre. Et c'est justement l'expérience que j'ai et tout le travail que je fais. C'est pas seulement du travail artistique, entre guillemets, mais c'est vraiment un travail de réinsertion pour essayer de réhabiliter ou de réinsérer quelqu'un dans une société qui n'en veut plus.
Talard a sélectionné une dizaine de détenus, pour la plupart les membres d'une chorale de la prison. Le spectacle a été créé au bout de 6 mois de répétitions intenses. Philippe Talard.
Le groupe de prisonniers, les 10 prisonniers qui travaillent dedans, sur les 10, il y en a 8 qui sont roms ou tziganes. Ils sont très vivants, très allègres, ils sont à l'aise avec le chant particulièrement, avec le mouvement aussi.
Ivan Plachetka fait partie de ce groupe de prisonniers et désormais aussi comédien tzigane, dont la mentalité serait proche, selon le chorégraphe, à celle des prisonniers italiens.
Nous sommes roms, alors la danse nous est propre. Mais ce qui n'est pas évident pour nous, c'est la chorégraphie, certains éléments du spectacle. Non, ce n'était pas difficile. Il a fallu apprendre la chorégraphie et la répéter et mémoriser. Ce qui était plus difficile pour nous, c'est que nous devions nous mettre d'accord, nous respecter, nous écouter les uns les autres et surtout faire ce que l'on nous disait. Tout le monde n'en a pas toujours envie, c'est clair.
La compréhension des textes de Jean Genet n'a pas été un obstacle pour les détenus, comme l'explique Mélan Vašek.
Ce texte reflète ce que c'est qu'une prison. Il parle de cette frontière fragile entre la liberté et la non-liberté. Aujourd'hui, il est très facile de perdre la liberté.
La musique originale du spectacle Ange déchu a été composée par Armand Amar, auteur de musique de film. On l'écoute.
C'est un projet étonnant. Donc... Il m'a fallu un peu de réflexion avant de dire oui. C'est vrai que les textes sont très beaux, même si je suis loin de ces textes que je trouve assez durs généralement. Et c'est pour moi, ce qui m'intéressait, c'est d'essayer d'amener un certain lyrisme pour aller contre un peu cet univers dur et avoir quelque chose de plus onirique, plus léger.
La liberté n'est que spirituelle, tel est, d'après Philippe Talard, le principal message de son spectacle Ange déchu.
Dans tous les livres de Genet, ce n'est que cette description de cette immense liberté possible pour un être humain qui est incarcéré. Et s'il est incarcéré, il faut qu'il puisse s'évader en permanence pour rester vivant. Sinon, c'est la prison, c'est la mort.
Pour le prisonnier Radek Toulay, le spectacle a accompli sa mission.
Lorsque nous chantons dans le spectacle, nous nous rendons compte que même en prison, nous pouvons éprouver de la joie.
Voilà, on passe tout de suite à la deuxième partie de notre émission. Le 31 mars, c'est la date officielle du début de la saison touristique estivale en République tchèque. L'occasion pour Jarka Gisubelova de consacrer ce magazine touristique à l'offre de l'Institut national de protection des monuments historiques pour la saison 2012.
Vous avez dit la République tchèque, voyagez donc.
Ce sont en tout 105 châteaux tchèques et moraves qui sont gérés par l'Institut national de protection des monuments historiques. Parmi eux, Český, Krumlov, Lednice, Karlštejn et Konopiště, soit les quatre châteaux les plus visités après le château de Prague. Au cours de l'année écoulée, ces châteaux ont accueilli 4,5 millions de visiteurs. Pour la directrice de l'Institut, Nadežda Goričková, la République tchèque est une puissance en termes de monuments.
Hrady a zámky, což je vlastně nejcennější hmotné dědictví této země.
Les châteaux représentent le patrimoine matériel le plus précieux de ce pays. Par la qualité architecturale, la qualité des décorations et des aménagements intérieurs, ce patrimoine est à un niveau comparable à celui de la France ou de la Grande-Bretagne.
Kvality architektury a interiéru snad s dědictvím Francie a Anglie.
La saison 2012 est placée sous le signe d'anniversaire et de projets qu'on espère attrayants pour les touristes.
D'abord, 40 ans se seront écoulés cette année depuis la signature de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel. La République tchèque, qui compte parmi les États membres, a accédé à cette Convention en 1990. Depuis, 12 sites tchèques sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour la nouvelle saison touristique, qui s'ouvre le 31 mars, un thème spécial est prévu pour chaque mois. Ainsi, au mois d'avril, on mettra à l'honneur les chapelles castrales et cet événement culminera par la Nuit blanche des églises, qui en sera cette année à sa 4e édition. Au mois de juin, ce sera autour des jardins de château, dont les plus beaux sont ceux de Český Krumlov, Kroměříž, Lednice Valtice, et les jardins baroques du versant sud du château de Prague. Un thème romantique a été choisi pour les mois de juillet et d'août. On évoquera quelques histoires de la vie sentimentale de la noblesse. Les inspirations antiques seront à découvrir dans les châteaux pendant le mois de septembre, tandis que le mois d'octobre aura pour thème la chasse.
Le projet clé de la saison touristique 2012 est dédié à une puissante famille de l'histoire tchèque, les Pernštejn. Le directeur adjoint de l'Institut de protection des monuments historiques, Petr Svoboda, est le garant du projet.
L'année de la famille Pernštejn a démarré au mois de janvier, où 425 ans se sont écoulés depuis le mariage de Polixène de Pernštejn avec Wilhelm de Rosenberg. C'est elle, la princesse Polixène, qui a fait en 1628 don de la miraculeuse statuette de l'enfant Jésus en provenance d'Espagne au père Carme de Prague. Le projet intitulé « L'année de la famille Pernštejn » se déroulera dans 5 régions de Bohême et de Moravie, preuve de la puissance de cette famille jadis, une famille dont l'empire couvrait pratiquement l'ensemble du territoire de l'actuelle République tchèque. Le nombre de manifestations programmées dépassera le chiffre de 80.
Europa Jagellonica est le titre de notre projet qui débutera au mois de mai dans la ville de Kutná Hora avant de se déplacer à Varsovie et à Potsdam, trois villes d'Europe centrale liées au XVe siècle par le règne commun de la dynastie des Jagellons qui a exercé son pouvoir dans l'espace entre-européen borné par trois mers, la Baltique, l'Adriatique et la mer Noire. Petr Svoboda explique le lien existant entre la famille des Bernstein et la dynastie des Jagellons.
Wilhelm de Pernstein, créateur d'un puissant empire renaissance en Bohême, en Moravie et en Silésie, héritier de grandes richesses familiales, prêtait d'importantes sommes d'argent au roi Vladislav de Jagellon, ce qui lui permettait de créer des conditions favorables pour ses activités économiques. Or, le privilège de pouvoir prêter de l'argent au roi s'est transformé au fil du temps en une obligation. Et la famille Pernstein s'est beaucoup endettée. Les Pernstein étaient des économes habiles, des diplomates brillants, mais aussi les inventeurs de l'une des premières crises financières globales. Contraint de fuir ses créanciers, Jaroslav Pernstein a trouvé refuge dans un paradis fiscal. Si les Bahamas sont considérés aujourd'hui comme un paradis fiscal, Jaroslav s'est contenté de fuir alors en Italie.
L'année de la famille des Pernstein fait partie d'un projet plus vaste que le ministère de la Culture a appelé « Sur les traces des familles aristocratiques ». L'idée est de présenter la noblesse comme une couche sociale cultivant les arts, exerçant des fonctions diplomatiques et politiques, encourageant les manufactures et le commerce, ayant beaucoup contribué au remaniement du paysage. Ainsi, après 2011, qui était l'année des Rosenberg, une des dynasties les plus influentes qui a façonné des villes comme Český Krumlov, et l'année des Pernstein en 2012, Petr Svoboda lève le voile sur la saison 2013.
En 2013, ce sera au tour du projet d'exposition intitulé « L'héritage des familles françaises qui ont vécu en Bohême ». Parmi elles, la famille des Rohan, ayant immigré de France après 1789, est installée au château de Sychrov, qui possède depuis l'une des plus importantes collections de portraits de peintres français en Europe centrale, ou la famille des Bucois, qui possédait plusieurs châteaux en Bohême du Nord et du Sud, dont celui de Rosenberg. Le projet présentera l'art français dans les collections de châteaux tchèques.
« 2012, 20 ans, 12 sites, un pays ». Voilà le slogan d'un autre projet qui attend les visiteurs pour la nouvelle saison touristique et qui rappelle que 20 années se sont écoulées depuis l'inscription du premier site tchèque sur la liste du patrimoine de l'UNESCO. Une exposition intitulée « Fait connaissance avec les monuments de l'UNESCO » est proposée à cette occasion dans plusieurs châteaux. Milena Blažková est la commissaire de l'exposition.
L'exposition présente les plus beaux sites du monde entier. Il existe à l'heure actuelle 936 biens répertoriés, répartis dans 153 États. Le fait que 12 d'entre eux soient en République tchèque est un honneur pour un pays relativement petit comme le nôtre. Cette année, nous célébrons le 20e anniversaire de l'inscription du premier monument tchèque sur cette prestigieuse liste. Les premiers sites à être classés en 1992 étaient les noyaux historiques de trois villes, Prague, Český Krumlov et Telč. L'exposition des sites classés au patrimoine de l'UNESCO a été présentée pour la première fois il y a 10 ans à Kroměříž. Depuis, la liste a été enrichie en 2004 avec Třebíč.
Už následující rok 2004 byla připsána Třebíč.
En effet, l'ancien ghetto juif de Třebíč et la basilique romane de cette ville morave sont pour l'instant les derniers monuments à avoir été inscrits. Outre ceux déjà mentionnés, on trouve sur la liste du patrimoine mondial la ville renaissance de Litomyšl, la ville de Kutná Hora et sa cathédrale Sainte-Barbe, la ville d'Olomouc et sa colonne baroque de la Sainte Trinité, l'église Saint-Jean-Nepomucen de Žďár nad Sázavou construite par Santini, l'ensemble de châteaux et de jardin de Legnice-Valtice, l'architecture de style baroque paysan de Holašovice et la villa Tugendhat de style fonctionnaliste de Brno. Parmi les bonnes nouvelles pour la saison touristique estivale qui débute le 31 mars, les châteaux n'augmentent pas le prix des billets d'entrée. Beaucoup de châteaux prolongent leur horaire d'ouverture et restent ouverts tous les jours.
C'est la fin de cette émission en français sur Radio Prague. Évidemment, vous le savez, tous ces sujets, vous pouvez les retrouver sur notre web, le www.radio.cz/fr, sous format d'articles, en podcast, mais également en streaming. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Vous le savez, nous avons une rubrique consacrée à vos courriers et à vos commentaires. Nous ferons un plaisir de vous répondre. Merci de votre fidélité. Bon vent. Ahoy.